Pour parler, avant qu'on parle spécifiquement de nos luttes sexuelles, quelques-unes que vous avez identifiées hier, vous avez identifié plusieurs fois la pornographie, la masturbation. Je n'ai pas entendu les fantasmes sexuels, ça c'est une autre place. C'est aussi cette lutte qu'on peut avoir de tomber, d'avoir les rapports sexuels avec d'autres. Alors, on va regarder ça un peu. Mais je veux, avant que je fasse ça, j'aimerais créer un cadre pour comprendre, pour vous aider à comprendre vos besoins légitimes. Parce que j'ai parlé, sexe n'est pas un besoin légitime, mais l'amour est. Alors, on va commencer là, parce que Dieu nous a créés avec les besoins légitimes. On va voir que des fois, ou naturel, ou normal, universel. Alors, est-ce qu'on peut regarder la première... Voilà. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre cœur. Alors, à part de l'oxygène, nourriture, de l'eau, quelle est la chose fondamentale, qu'est-ce qu'on a besoin pour être épanoui?
L'amour.
L'amour. Quoi d'autre?
L'attention.
L'attention. OK, on peut aller plus vite. L'affection. L'affirmation. D'autres? On peut continuer? Il y a cinq. Continuez. Plus. Appartenance. Oui, c'est large que ça s'en vient. Appartenance, c'est très important. Connexion. Et dernière, être appartenance. Puis on a d'autres besoins aussi légitimes. On a besoin de sentir qu'on peut faire une différence et qu'on peut persévérer à travers les difficultés, qu'on est utile. C'est, on a des choses que Dieu a mis en nous qui est naturelles, universelles et tout ça. Et je crois, en première, Dieu veut combler ses besoins. C'est lui qui nous a créés et il veut remplir nos cœurs et enfin qu'on soit solide. Mais en même temps, il nous a donné des parents et je vais parler un peu des parents. Ce n'est pas pour les blâmer, c'est pas pour minimiser des parents. On est parents, on a trois enfants. Mais Dieu nous a donné des parents pour combler ses besoins aussi. Surtout dans notre enfance, ça met le fondement, la fondation. Alors, je crois que les mères, ils ont un mandat, une autorité. En tout cas, il y a quelque chose dans la femme, dans la mère, qui est capable de transmettre à son enfant qu'elle est aimée ou il est aimé sans condition. Je t'aime parce que tu es là. Je t'aime, tu n'as pas besoin de rien faire, tu existes, je t'aime. C'est l'amour sans condition. Et lorsqu'une mère regarde à son enfant, son nouveau-né, il y a une joie, ça nourrit l'âme, ça éveille l'âme. On a besoin de ça, de bien connecter avec la mère au début de notre vie. Alors, souvent, j'ai cette image que c'est la mère qui amène l'enfant vers l'intérieur. Mais on a besoin aussi des pères. Et je crois que les pères, ils ont un don particulier pour affirmer, confirmer l'enfant dans qui ils sont et dans leur identité sexuelle et juste en général. Et souvent, je vois que les hommes, les pères, ils ont un mandat pour, dans un bon sens, séparer l'enfant de la mère et tourner l'enfant vers l'extérieur. « Wow, regarde, il y a tout un monde là. Regarde ce monde, c'est merveilleux. » Et on voit, on n'a pas de nouveau-né ici. Mais souvent, si observez les femmes avec leur nouveau-né, souvent c'est comme ça. Parce qu'ils allaitent, en partie, ou ils donnent le biberon, souvent, mais où ils mettent leur enfant sur leur cœur. Alors, ils amènent l'enfant vers l'intérieur. Et le père, j'ai vu Yves souvent avec nos enfants, il a pris l'enfant comme ça, vers le visage, vers l'extérieur, puis se promenait. Alors, pour moi, c'est une bonne image. C'est ça. C'est ça. Il joue avec l'enfant. Alors, c'est la même chose maintenant. Je vois ça dans notre couple. On a une fille, nos enfants, ils ont allé loin. Une habite en France, l'autre veut aller en Australie. Puis il va dire, « Ah, c'est merveilleux, vas-y, explore, être aventurier. » Et moi, je dis, « Vas-y, mais reviens à la maison. » Et mes enfants partent et je trouve ça très difficile. En tout cas, Dieu nous a donné, je crois, des parents, je crois. C'est pour ça qu'on a besoin d'une mère et d'un père. On se complimente encore. Et lorsque on reçoit tout ça, on est comblé. On se sent bien, on est solide en dedans. Hein? On peut affronter des choses dans le monde, on peut endurer, on peut confronter les difficultés, on peut avoir les relations saines. Mais qui a vécu ça? Alors, je sais qu'on a une nature déchue, mais moi, je parle aussi, je veux parler un peu de nos blessures, nos manquements, nos carences aussi, et qu'est-ce que ça fait dans notre vie. Alors, si on peut regarder le prochain, ça, c'est la situation idéale, l'autre. Maintenant, on va regarder un peu plus la réalité. Vous voyez que certains de nos besoins ont été comblés, ou partiellement comblés, parce que nos parents ne sont pas parfaits. Alors, ils étaient élevés par les parents pas parfaits. Alors, est-ce qu'on peut aller à la prochaine? Lorsque nos besoins ne sont pas comblés parfaitement ou complètement, il y a les espaces vides. Il y a les carences, les manquements. Le domaine de vulnérabilité, j'appelle. On est en manque, hein? On a besoin de quelque chose parce que nos besoins sont légitimes, comme je te dis, sont naturels. Alors, souvent, c'est comme ça. On vit un peu les difficultés comme ça. On n'a pas reçu toutes les bonnes choses qu'on a besoin pour être solide. Alors, en plus de ça, souvent, on vit des choses négatives. En plus de la négligence, on vit des fois qu'est-ce que j'appelle l'abus. L'abus, c'est un gros mot, mais on peut parler de la maltraitement, on peut parler de le rejet. Est-ce qu'on peut aller regarder la prochaine? Encore? Voilà. Vous voyez que lorsqu'il y a un maltraitement, on parle de l'abus verbal, quelqu'un nous insulte, quelqu'un nous traite de nom, il nous ridiculise. Si on est abusé sexuellement ou physiquement, c'est plus difficile à décrire l'abus physique, hein? c'est visible. Mais l'abus sexuel aussi, c'est lorsque quelqu'un ne respecte pas nos limites. Les limites sont très importantes. Vous voyez qu'il y a une brèche dans ce cercle-là. Et quelque chose a entré et envahi, nos limites sont transgressées et quelqu'un a envahi nos cœurs et ils ont mis un dépôt négatif sur notre cœur. Ça peut être un mot, comme je dis, une parole, une insulte. Ça peut être un coup dans le visage. Ça peut être aussi l'aspect sexuel, un abus sexuel. Lorsque je pense de l'abus, je pense souvent de mon ex-mari, mon deuxième mari, qui était très agressif en tant qu'homme, très colérique, et souvent il me traitait de nom. Et souvent, lorsqu'on sacre en anglais, c'est toujours avec des paroles reliées avec le sexe. Alors, c'est toujours « tu es » et ça rentrait, je peux mettre 3X là, ça rentrait dans mon cœur. Et aussi, et ça laissait des dépôts négatifs dans mon cœur. Et lorsqu'on parle de l'abus sexuel, je vais juste parler un peu des limites. Tu sais, en général, ça dépend de la culture. On est à l'aise à peu près, comme ça, comment on appelle ça? La longueur d'un bras de quelqu'un. Si on veut que quelqu'un vienne un peu plus proche, il faut qu'on l'invite, ces personnes. Hein? Alors, si je vais envers Yves, oui, Yves peut venir envers moi, c'est bon. Là, elle peut s'approcher et nous, il peut mettre son bras autour de moi. Et voilà, on est mariés, on est confortable. Hein? Il n'est pas transgressé mes limites, parce que c'est ça, on peut être proche comme ça. Mais si je vais envers vous, puis je fais la même affaire, sans l'invitation, comment vous allez sentir? Agressé, envahi, gêné, même abusé. On peut, c'est mon espace vital, ma personne n'était pas respectée, je t'ai envahi et même abusé. Alors, ça n'a pas besoin, merci Yves, ça n'a pas besoin d'être, souvent lorsqu'on parle de l'abus sexuel, on peut penser de les situations où il y a la pénétration, l'acte au complet. Mais je crois qu'il y a beaucoup de variations de l'abus sexuel. Il dit qu'il y a une femme sur trois qui a été abusée sexuellement et un homme sur six. Et ça augmente pour les hommes aussi. Alors, ça inclut toutes sortes de choses. Les paroles grossières, les commentaires déplacés par rapport au sexe, les blagues même. sais. Le voyeurisme, tu sais, on va regarder, j'ai entendu les histoires où les femmes ne pouvaient pas fermer la porte de leur salle de bain parce que, tu sais, leur père va entrer. C'est envahissant, hein? Puis ils étaient nus. Alors, on peut parler de quelqu'un qui a exposé leurs génitaux. On peut parler de quelqu'un qui touche nos génitaux à travers nos vêtements. Tout ça, c'est, moi, je considère l'abus ou l'harcèlement ou l'envahissement au niveau sexuel. Et ça peut jouer un très, très grand rôle dans notre sexualité, dans notre vision de la sexualité, dans nos désirs, dans nos façons de réagir. Et malheureusement, à cause de la liberté dans notre culture, encore plus, et à cause qu'on a banalisé le sexe, toutes les limites et toute la protection a été descendue. Hein? C'est renversé, les murs sont renversés, pense à les poutres ou le pilier. Je pense que Dieu, une raison pour laquelle Dieu nous a donné ce cadre est de vraiment protéger les plus vulnérables. Et qui sont les plus vulnérables? Premièrement, les enfants. C'est les enfants qui souffrent beaucoup à cause de cette libéralité. Et ensuite, c'est les femmes, mais je crois aussi beaucoup d'hommes, comme je dis, il y a beaucoup d'hommes qui sont abusés ou maltraités ou leurs limites n'ont pas été respectées. Alors, ça peut avoir un impact sur notre sexualité parce que tout est mélangé dans notre tête. C'est le sexe, l'amour, la culpabilité, il y a beaucoup de confusion, puis c'est tout entremêlé. Et je connais certaines personnes qui ont été abusées et maintenant ils ont un style de vie assez promiscu. Ils vivent la promiscuité. Tu sais, ils vont aller à un partenaire à l'autre parce que leurs limites n'ont été pas respectées. Alors ils n'ont pas cette pensée que je peux mettre des limites, que je devrais, tu sais, protéger mon cœur, que j'ai même le droit de protéger mon cœur. Et des fois parce qu'ils étaient à dominer ou abuser et veut dominer l'autre. Hein? On va faire un réenactement pour maîtriser, pour avoir reprendre le contrôle de notre vie. Alors, on voit, c'est ça, cet phénomène. Tu sais, les personnes qui deviennent très libérales ou promiscues, ils vivent une promiscuité. Par contre, j'ai vu le contraire aussi, que beaucoup de femmes ou hommes qui ont, les deux, qui ont été abusés. Et ça peut être, je n'ai pas inclus dans cette liste de choses, ça peut être aussi qu'est-ce qu'on appelle en anglais « date rape » aussi. Ça veut dire en fréquentant quelqu'un, mais aussi, ça a l'air qu'il y a un consensus, mais ce n'est pas tout à fait. Hein? On ne veut pas vraiment, mais vous avez parlé de cette idée, on ne veut pas être vu comme différent des autres, on ne veut pas être marginalisé. Si on veut que quelqu'un a parlé, on va garder des fois l'union ensemble. Hein? On pense que si on a les rapports sexuels, ça va aider. Hein? Au moins, mon chum ne va pas me quitter ou ma blonde ne va pas me quitter. Alors, si on s'aide, mais pas avec notre cœur. Alors, on se sent après abusé, pas respecté dans nos limites. Alors, ce que j'ai vu, que souvent, les personnes qui ont vécu ça, maintenant, c'est merveilleux. Ils peuvent aller dans les mariages, ils vivent avec quelqu'un où ils se sentent en sécurité et leur désir sexuel est refoulé. Ils repoussent ça. Pour eux, l'intimité n'est pas associée, l'intimité sexuelle n'est pas associée avec quelque chose de bon. C'est pas associé avec ce lieu de sécurité. Je me sens sécure. Alors, j'ai pas besoin d'avoir le sexe, le rapport sexuel. Alors, on veut protéger les unes les autres. Si vous voulez aussi avoir des bons mariages, on a besoin de se protéger, même lorsque dans les cadres, je parle aussi d'aller trop loin lorsqu'on fréquente les unes les autres. J'ai parlé de date rape. Est-ce qu'il y a un autre mot pour ça en français? OK. Vous comprenez. Il continue quand même. Il pousse les limites, c'est ça? Mais il pousse les limites ou peut-être la personne ne dit pas non. Parce que je dis, ils ont crainte. Je pense que c'est une autre réaction lorsqu'on est dans une situation où on se sent forcé. C'est, on se paralyse un peu comme le grenouille aussi. On a peur de réagir. Et je dis pas que c'est ta faute. Je veux juste rappeler que lorsqu'on était abusé, vraiment, où nos limites étaient transgressées, c'est pas notre responsabilité. Hein? On peut pas prendre le blâme pour ça. Alors, Je sais que la sexualité se mélange beaucoup lorsqu'on juste en général dans notre culture. Hein? C'est pas juste, on n'a pas besoin d'être abusé, de vivre la confusion au niveau de notre sexualité. Je me souviens de le fait que j'ai eu plusieurs relations en dehors de mariage. Ma sexualité était éveillée et des fois je me sentais pas respectée. Mais je me souviens que chaque fois qu'un homme m'a montré un peu d'attention, un peu de bonté ou d'affection, tout de suite, j'ai érotisé ça. C'est, tout de suite, j'ai tourné ça dans quelque chose de sexuel. Alors, ça a pris du temps dans le corps de Christ d'être avec les hommes que je sais respecter mes limites avant que ça se calme en moi et que je peux avoir être en confiance avec le sexe opposé. Certainement, Yves m'a aidé à ce niveau-là, mais j'avais besoin d'autres frères et sœurs qui j'ai vus, qui étaient vulnérables, qui luttaient même avec leur sexualité, mais qui étaient honnêtes, qui étaient allés à Jésus avec ça. Alors, ça m'a encouragé de faire confiance. C'est pour ça que je pense que c'est bon qu'on peut parler un peu ensemble. Je pense qu'on a besoin d'entendre les unes les autres aussi et voir, oui, les femmes luttent, les hommes luttent, mais on peut être transformé. Hein? On n'est pas parfait, mais on peut être transformé. Alors, Yves, est-ce que tu voulais partager quelque chose avec cette idée de mélanger la sexualité, l'amour agapé, l'amour eros aussi?
Je pense que parfois, il y a une fine ligne entre agapé et Eros, c'est peut-être un peu drôle à dire. J'avais été à une conférence de pasteurs, je suis pasteur aussi dans une église, et puis à un moment donné, un des prédicateurs a apporté un enseignement sur, ça s'appelait, c'était aux États-Unis, « Sex and the Anointing ». Dire que ça a capté l'attention de plusieurs. Là. Je pense que si ça avait fait un atelier, ça aurait été rempli aussi de toute façon. « La sexualité et l'onction ». Il peut dire, qu'est-ce qu'il va parler? Il a piqué ma curiosité assez. Et c'est intéressant ce qu'il mentionnait, sans arriver avec une profondeur. Et ça m'a fait réfléchir, et j'en suis pas encore à des conclusions complètes, mais je vais juste partager ces choses-là. C'est que souvent, il y a des personnes qui sont très douées, des personnes qui sont très charismatiques dans le sens qui sont très douées avec la parole, sont très douées même des fois avec des signes et des prodiges. Il y a comme une onction, il y a le Saint-Esprit qui leur a donné des dons et tout. C'est des bons communicateurs et ça, c'est pas mal. C'est un don qui est de Dieu. Et ils ont une compassion particulière, ils ont un agapé de Dieu que Dieu leur a déposé dans leur cœur. Mais il y a quelque chose qui se dégage des fois peut-être avec l'autorité, la notoriété, tout ce que tu as avec ça, qui fait que parfois, agapé peut devenir éros. Hein? Et combien de personnes, d'hommes, de femmes de Dieu, ont tombé sexuellement? Et je me souviens, moi, quand ça arrivait, un moment donné, il y a très longtemps, ça arrive encore, mais on entendait beaucoup aux États-Unis, il y avait les télé-évangélistes qui avaient tombé un après l'autre et tout. Et j'avais jugé beaucoup, dire « Ah, tu vois, qu'est-ce qui… » c'est tout. Et puis, le Seigneur m'a repris hein, avec le passage « Que celui qui est debout prenne garde de tomber. » Et j'ai vu aussi ma fragilité, que je pourrais faire la même chose. Mais moi-même, j'ai vécu quelque chose de semblable. À un moment donné, le Seigneur m'avait vraiment donné dans l'intercession un fardeau pour une région particulière du monde. Et je priais pour cette région-là. Et quand je rencontrais des femmes de cette région en particulier, j'étais vraiment tenté sexuellement. C'était très, très fort. C'était pas juste comme, tu sais, t'as une tentation, ça te passe et tout. C'était extrêmement fort. Il y avait un combat qui se faisait en dedans de moi. Par la grâce de Dieu, j'ai jamais chuté, mais j'ai vu que agapé pouvait aussi s'érotiser. T'as une compassion qui vient de Dieu et qui, si tu fais attention pour pas nourrir trop avec la chair et tout, ça peut s'érotiser. Donc, quelque chose qui était bon peut s'érotiser. Et on le voit, je l'ai vu dans notre propre église aussi parce qu'on avait particulièrement aussi plusieurs personnes qui luttaient avec l'attirance envers le même sexe. Et il y avait une femme qui luttait avec l'homosexualité. Et c'est pas que c'est nécessairement une femme particulièrement attirante et tout, mais deux autres femmes qui ont voulu vraiment l'aider, qui avaient une compassion, qui avaient un agapé, ont chuté sexuellement. Mais c'était même pas des personnes... Pardon? OK, désolé. Ça, c'était bon, je sais pas dire. On garde les questions après, mais je suis mieux de répondre à celle-ci. Agapé, c'est... un amour comme Dieu aime. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui provenant de Dieu. Il y a aussi philéo, qui est un amour genre fraternel, amical. Et il y a aussi storgé, qui est un amour familial, et il y a Eros, qui est un amour, bon, ça vient du mot grec, justement, érotique. Donc, c'est ça, désolé, j'aurais dû être plus spécifique. C'est très, très bien que tu m'aies arrêté. Mais en tout cas, dans ce cas de cette femme-là, les deux autres femmes n'étaient aucunement attirées, mais il y avait quelque chose qui elle montrait beaucoup de difficultés, de pitié. Les gens voulaient aider et tout, et ils ont tombé sexuellement avec, et puis même une après, aucun intérêt à nouveau des femmes et tout. On va pouvoir en parler quand on va toucher sur l'atelier aussi. L'homosexualité féminine et masculine peut être différent. Mais on voit aussi combien de fois qu'on entend parler des conseillers ont agapé, qui ont une compassion pour aider les personnes et qui ont parfois chuté aussi sexuellement avec des personnes qui ont voulu aider, que ce soit des pasteurs ou des gens en relation d'aide. Et aussi, on l'entend parler au travers, c'est pas juste parmi les chrétiens, donc c'est pas toujours nécessairement agapé, mais on voit comme dans le milieu du travail, un homme qui, par exemple, a une bonne écoute, qui veut écouter, puis il y a une collègue de travail qui est mariée, mais qui a vu des difficultés avec son mari, et en tant que bon chrétien, il veut écouter, puis pouvoir aider, et puis finalement chuter, ou bien du moins, même si c'est pas toujours chuter, il y a quelque chose qui se passe. Et je vois que même, moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé dans le milieu psychiatrique, et puis évidemment dans les hôpitaux, c'est surtout un monde de femmes, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, et puis je voyais comment que des fois, même dans ma propre vie, même si je savais qu'il était pour rien arriver, il y avait comme quelque chose que c'était plaisant quand tu voyais que quelqu'un est intéressé à toi. C'était comme un flirt virtuel, hein? Et puis tu peux même l'inviter un peu, puis si tu fais pas attention, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, agapé peut facilement s'érotiser.
Merci. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapositive? Ça, c'est juste une autre image de l'abus, comment les limites étaient brisées. Je sais pas, on voit pas très bien. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à l'impact de la négligence et l'abus, mais on va sauter de ça un peu. Est-ce qu'on pourra garder le prochain? C'est ça. Souvent, lorsqu'on a vécu des blessures et tout ça, on a cette tendance de construire un mur autour de nos cœurs pour nous protéger. On peut parler longuement là-dessus, mais je passe. Est-ce qu'on peut le regarder le prochain? Encore? Oui. Une autre chose qu'on vit lorsqu'on on a les difficultés, les blessures dans notre vie, on vit beaucoup de honte. Oui, on pense, OK, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. La honte, c'est ce sentiment profond que je suis défectueux, je ne suis pas adéquate, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche avec moi. Quelques-uns, ils ont mentionné ça hier aussi. Et faire ça. Si vous n'êtes encore pas dans une relation, aussi, on peut vivre la honte. Alors, lorsqu'on vit la honte, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre tendance vraiment lorsqu'on vit la honte? On se protège, on se cache, on se couvre aussi. Alors, on y va à la prochaine. OK, je voulais juste faire une différence entre la honte et la culpabilité. La honte, il y a trois, on peut peser trois fois. C'est ça, la culpabilité, j'ai fait quelque chose pas correct. Ça, c'est bon, hein? Si on se sent coupable, on va arranger les choses. La honte peut être toxique parce que se dit « je suis mauvaise ». Alors, lorsqu'on vive la honte, la prochaine, s'il vous plaît. Encore? Voilà, on se cache. On se cache. Et des fois, je pense aussi souvent lorsque je parle de la honte, moi j'avais beaucoup de honte. Tu sais, j'avais beaucoup d'étiquettes sur moi. Je pensais que j'étais laide. Je pensais que j'étais stupide. Je pensais que j'étais inférieure. Hey, il y a toute une histoire derrière toutes ces étiquettes. Je n'ai pas le temps de vous parler. Mais encore, à cause de la honte et ces mensonges, ces étiquettes, on essaie de se cacher. Hein? On essaie de créer un masque, une image, un déguisement pour qu'on se sente mieux, mieux accepté par les autres personnes. Et il y a beaucoup de masques qu'on peut porter aussi, les bons et les moins bons. Mais un masque que j'ai essayé de porter pendant que mon adolescence et mes vingtaines, c'est celui-là de la femme séductrice. Hein? La femme qui était incapable, par sa beauté, par ses paroles, par ses gestes, d'être capable de séduire et attirer. les gars. Pour les gars, ça peut être la même chose, ou vous pouvez essayer d'être le gars fort et le gars, en tout cas, c'est pas justement fort physique, intelligent, le meilleur jock, le meilleur athlète à l'école, tout ça, là. Ça, c'est bon, ça peut être bon, mais aussi, le problème, c'est que derrière les masques, souvent, qu'est-ce qu'il y a derrière les masques? Pardon? La vraie personne. La vraie personne. Et nos besoins, parce qu'ils sont cachés derrière, ils ne sont pas comblés. Hein? Nos vrais besoins d'être aimés pour l'appartenance, pour l'amour, là, tout ça, ce n'est pas comblé parce que c'est juste derrière le masque. Et si j'enlève cette idée de la femme séductrice, est-ce que les personnes vont m'aimer quand même? C'est toujours la question. Et on veut aimer pour qui nous sommes. C'est Dieu qui voit derrière tout ça, ces masques, heureusement. Il nous voit et il voit la beauté de qui nous sommes, notre vrai moi. Hein? Ça, c'est notre faux moi. Le vrai moi, c'est derrière et Dieu, il le voit puis il le fait sortir. Alors, on va continuer. Un autre impact, pas juste de l'abus, la négligence, parce que, mais en général, ça ajoute. Hein? Si on a des carences, des manquements et tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire? On va cacher, on dit, mais aussi on veut remplir. On veut remplir les espaces vides. Comment est-ce qu'on essaie de remplir les espaces vides? Des plaisirs. On peut commencer de mettre toutes les flèches. Comme j'ai parlé, sexe, consommation, nourriture, chimie, alcool, relations. Les relations, je parle de les relations codépendantes, c'est malsaines, une personne après l'autre. Le prochain, s'il vous plaît. La popularité, toute la média sociale, tout ça. Ouais, on peut ajouter, puis on peut ajouter. Est-ce que vous pouvez identifier dans votre vie certaines choses que vous utilisez pour remplir les vides? Où est-ce que vous allez pour sentir bien? Où est-ce que vous allez pour le plaisir, pour éviter la souffrance, pour éviter ce sentiment que je suis invisible? Hein, pour gérer la honte et tout ça. Où est-ce que vous allez? Pardon? La drogue. C'est ça. Plein de choses. Hein? Moi, j'ai utilisé... Et les choses sont... On retourne, s'il vous plaît. La nourriture est bon. Hein? Le sexe est bon dans ce bon contexte. Le Facebook est bon. Mais c'est une question de modération, on peut dire. Et est-ce qu'on y va toujours envers ces choses-là en lieu d'aller envers Dieu? Est-ce que Dieu est votre refuge? Est-ce qu'il est votre lieu de sécurité, votre jardin secret? Et où est-ce que vous allez de santé toujours bien? C'est quoi qui prend beaucoup de place dans votre vie, même si c'est bon? Parce que moi, j'essaie aussi de remplir ces trous avec le travail. J'étais un travailleur, workaholic. Hein? Dans mes vingtaines, je parlais, c'était difficile, il y avait beaucoup de confusion, mais aussi j'enseigne à l'université de Winnipeg, et c'est vraiment mon identité aussi. C'est vraiment la façon que j'essaie de combler mes besoins. Alors, je crois que Dieu, encore, est celui qui veut combler vos besoins en particulier. Et moi, j'ai appris d'aller me réfugier en lui, en lieu d'aller se réfugier dans ces choses. Et je sais que même en tant que chrétien, l'alcool a pris trop de place dans ma vie. Ça dépend de la culture d'où tu viens. Mais au Québec, tu sais, en général, c'est correct de prendre un verre de vin, dépendamment. Et là, mais j'ai vu que je n'étais pas dépendant. Mais en même temps, ça a pris trop de place parce que je me réfugiais dans ça. Alors, Dieu m'a appelé de dire, non, donne ça à moi. Moi, je veux combler tes besoins. Et j'ai vidé mes mains et j'ai vu que Dieu a rempli tranquillement mes mains. Mais c'est sans souffrance, hein? C'est pas ça que je me sentais privée. Et souvent, c'est ça qu'on a besoin de faire. Je te fais confiance, je vais vider mes mains de toutes ces choses et je vais te laisser me combler. Alors, on va aller à la prochaine. Je sais que tout le monde ici, en tout cas, les humains, on lutte. Hein? On lutte avec quelque chose. On n'est pas seul. Et je pense que c'est ça qui est important, qu'on commence d'être connu dans les luttes dans nos luttes et dans nos faiblesses. Quand on fait tomber nos masques et on parle avec d'autres personnes, des personnes de confiance, des personnes de sécurité de nos luttes. Parce que souvent, on pense qu'on est toute seule, hein? Mais vous n'êtes pas toute seule. Ça peut être quelque chose vis-à-vis l'estime de soi, votre image de corps, votre, tu sais, vous avez nommé certaines luttes hier. Mais je pense que c'est très important qu'on commence de parler. Et là, voilà, je vais donner à Yves la place pour parler de la pornographie maintenant. Et la masturbation. Ça est venu plusieurs fois comme les combats hier, et on savait déjà, c'est un combat pour beaucoup de personnes.
C'est certain que là, on donne ça très court dans un week-end. Habituellement, ces enseignements-là, on donne ça à Jeunesse en mission une semaine au complet. Fait que donc, excusez-nous de sauter, d'aller rapidement à plein de sujets, comme quand on parle du vide qui est à l'intérieur, on y travaille davantage aussi pour pouvoir permettre au Saint-Esprit de pouvoir travailler aussi dans nos vies. Donc, on y va quand même assez rapidement. Au niveau de la pornographie, c'est vraiment un fléau. On va l'appeler comme ça, c'est un fléau, pas seulement en dehors de l'Église, chez les non-chrétiens, mais dans l'Église aussi. C'est un fléau dans le sens que c'est beaucoup, beaucoup, particulièrement des hommes, il y a des femmes aussi, qui luttent avec la pornographie. À mon époque, comme je vous ai dit, vous ne pouvez peut-être pas vous imaginer qu'il n'y a jamais eu Internet à un moment donné dans cette vie, mais il n'y avait pas l'Internet, c'était beaucoup plus difficile. On pouvait tomber sexuellement, il y avait toujours des magazines et tout. Mais je me souviens, quand il y avait des magasins, c'était XXX qui flashait et tout. Donc, tu n'avais pas l'accès, comme c'est facile aujourd'hui, quand que tu as Internet. Mais il y avait quand même la pornographie qui y était. Mais présentement aussi, on voit que de plus en plus de chrétiens qui luttent avec ça, et bien, bien souvent dans le secret. Dans les dernières années, on a vu par contre que des gens qui ont commencé à en parler davantage, des pasteurs, des leaders d'église qui luttaient avec ça, certains qui ont perdu leur mariage à cause de la pornographie. Et par la grâce de Dieu, maintenant, c'est beaucoup plus parlé et il y a beaucoup plus de ministères qui s'en occupent aussi. les non-chrétiens, pour eux, La pornographie, c'est correct si tu le fais avec modération. On compare ça souvent comme avec l'alcool, si tu bois juste de façon modérée et tout. Mais on voit que dans la réalité, beaucoup commencent à être préoccupés aussi, même dans les milieux non chrétiens au niveau de la pornographie, et particulièrement lorsque la pornographie arrive aussi dans les mariages. Et on a rencontré des fois des personnes aussi où le mari était vraiment accro sur la pornographie et que les femmes se sont senties dévastées. C'est pas qu'ils n'avaient pas des bonnes relations sexuelles, c'est pas qu'ils n'aimaient plus leur femme ou qu'ils les trouvaient pas jolies, mais il y avait vraiment une dépendance qui était très, très forte. Et il y a certains groupes. À notre église, il y a quelqu'un qui a débuté un groupe pour ceux qui luttent avec la pornographie, mais qui ne sont pas chrétiens. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui s'ajoutent au groupe. C'est une façon aussi, pas directement, mais de parler aussi de Dieu qui peut être une aide pour nous, mais des gens qui sont rendus à bout. Ils n'ont jusque-là, ou leur épouse, justement, ils leur ont dit, tu fais quelque chose ou je te quitte parce que c'est rendu trop. C'est pas juste un petit peu. Il y a des groupes aussi à 12 étapes aussi, des groupes Sex Anonymous et tout qui existent, et de plus en plus maintenant de sites chrétiens aussi qui peuvent aider. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui débutent avec ce qu'on pourrait dire la pornographie soft, donc légère et tout, et qui, ça ne veut pas dire que tous ceux qui commencent comme ça, ça ne veut pas dire que tous ceux qui fument du pot vont devenir des héroïnomanes, c'est certain, mais il y en a quand même plusieurs qui veulent toujours aller découvrir et aller davantage. J'ai conseillé des personnes chrétiennes qui luttent avec la pédophilie, donc qui sont tentés envers les enfants, donc j'en ai accompagné certains, et c'est intéressant d'entendre des témoignages où c'est qu'ils ont débuté des fois avec la pornographie où c'était des femmes adultes, et puis à un moment donné, ils commençaient à descendre davantage l'âge et tout, et puis jusqu'à aller avec des enfants. Donc on voit que, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va jusque-là aussi, mais il y a quelque chose dans la pornographie qui veut qu'on en veut toujours plus. Et même si c'était peut-être des fois un genre de loisir à des moments définis dans la journée, à la fin de la journée, combien maintenant d'employeurs ont de la difficulté parce que les gens vont sur des sites pornographiques durant leur travail alors qu'ils travaillent avec l'ordinateur. On pourrait dire, bien, qu'est-ce qu'il y a de mal, à part de ce que je viens de dire, avec la pornographie? Peut-être, Catherine, tu peux m'apporter la Bible. Dans Matthieu 5, versets 27 à 28, on peut lire ensemble. On avait fait une conférence, Catherine et moi, on fait des conférences des fois aussi pour les couples, et puis on a fait une conférence dans une église, et puis un homme a posé une question très légitime, une question qui est comme ça, et donc les gens étaient très ouverts, puis il a dit, en tant que couple marié, est-ce qu'on peut utiliser la pornographie pour pouvoir se stimuler, de voir d'autres personnes? Et puis j'ai dit définitivement non, parce que c'est des images qui nous restent aussi de d'autres personnes, et à cause particulièrement de ce passage à Matthieu 5, verset 27, Jésus qui dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Donc, déjà, il citait l'Ancien Testament. Et Jésus va plus loin. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, c'est certain que lorsqu'on regarde à la pornographie, bien, c'est clair et précis que nous voyons d'autres personnes qui ont des actes sexuels. C'est un adultère, je pourrais dire, mental, et ça... C'est faux que ça l'empêche, ça l'apaise justement nos tentations. Ça je ne sais pas si ça existe ce mot-là, je vais l'inventer, c'est surstimule les personnes, et on en veut davantage et davantage. Et comme quelqu'un a mentionné hier, c'est presque toujours évidemment accompagné de masturbation. C'est rare que quelqu'un va regarder des films pornographiques puis dire « bah, je me sens mieux là. Là, je suis bon pour encore une autre bonne journée. » Non, c'est accompagné habituellement avec l'acte de masturbation. Donc, on met dans notre tête constamment des images de d'autres personnes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, plus on en regarde, plus on en veut. La porno, ça détruit vraiment des mariages. Et je le mentionne parce que des fois, il y a des gens qui croient, « Bon, je suis célibataire, j'ai des besoins, c'est difficile pour moi, mais quand je vais être marié, ça va aller mieux. » Non. Ça va pas mieux. Mauvaise nouvelle. C'est vrai que peut-être au début, les gens, ils s'habituent, il y a des relations qui sont sexuelles, ils n'en avaient pas du tout avant, ils étaient abstinents. Mais à un moment donné, il y a la routine, ou bien même s'il y a une bonne relation au niveau de la sexualité, dans des moments de manque et tout, oups, on pèse sur le piton, on retourne à la pornographie. Et on a vu beaucoup des mariages qu'on doit aider justement à ce niveau-là. Et la pornographie, ça donne une fausse image aussi de la sexualité. Ça, on n'a pas besoin d'aller même dans les films pornographiques. Tu regardes les films d'Hollywood et puis... c'est souvent qu'il y a des scènes sexuelles, ils peuvent avoir peu importe la position que l'homme et la femme ont, il n'y a pas de préliminaire, ils ont un orgasme ensemble en à peu près 5 minutes, et puis la musique part aussi en même temps, et puis donc nous on a cette idée de sexualité qui est complètement fausse. Donc, ça nous donne ça. Puis même des fois, même en tant que chrétien, on regarde un film, puis maintenant, j'avoue, il y a peu de films où c'est qu'il n'y a pas au moins quelques scènes. Puis des fois, on le souhaite presque. Là. Puis il t'amène dans... Faut s'avouer, là. On le souhaite presque parce qu'on dit, ben, j'écoute pas un film de porno, là. J'écoute quand même un film ordinaire et tout. Puis ben, j'espère qu'il y a une petite scène, là, assez rapide quand même, mais c'est juste pour éveiller ma curiosité. Levez pas la main, mais ça arrive. Hein? À moins que je suis le seul, je lève la main ici en haut. Mais c'est tellement ambiant, c'est tellement dans nos gènes, je pourrais dire quasiment. Mais ça donne une fausse conception, une fois même qu'on est marié, au niveau de la sexualité, et ça élève des standards qui ne sont pas réalistes. Moi, quand je réveille du travail et puis que je rencontre Catherine, bien, habituellement, il n'y a pas de scène en slow motion où c'est qu'elle court vers moi, puis... Ça prend ensemble et puis on s'embrasse et puis la musique part en même temps et tout. Donc, on doit vivre une réalité que les films, autant de la pornographie que les films d'Hollywood, ne sont pas nécessairement réels. Au niveau de la masturbation, il n'y a rien dans la Bible qui dit, c'est pas dans les 10 commandements, tu ne te masturberas pas. C'est pas écrit, que ce soit peu importe les versions, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Parmi les chrétiens, je pourrais dire il y a deux positions que les chrétiens peuvent avoir. Il y a la première, que certaines personnes qui pensent que si on peut faire la masturbation si on ne pense pas à quelqu'un d'autre dans notre pensée, si on ne fait pas aller notre imagination. D'autres personnes aussi disent, bon, si tu es adolescent, tu explores, ou bien si on n'en devient pas dépendant. Une autre position de d'autres chrétiens, puis il y a des chrétiens très connus aussi qui prônent ceci. Et la deuxième position, qui est plus la nôtre personnellement, et c'est qu'on croit qu'on doit s'en abstenir, sauf si on est marié et que c'est mutuellement que les deux, entre l'homme et la femme, décident de se le faire mutuellement. Mais ensemble, oui, ensemble, pas séparément, là. Oui. Et puis, c'est intéressant parce que même dans des mariages, surtout à cause de la recrudescence de la pornographie, on voyait dans le passé beaucoup plus d'hommes qui voulaient justement avoir des relations sexuelles plus fréquemment. Et récemment, on voit que ça change pour différentes raisons. Je ne veux pas dire que c'est strictement pour ça, mais beaucoup, c'est parce que justement, il y a des gens qui sont accros à la pornographie et qui, même mariés, passent plus de temps à se masturber personnellement et négligent aussi les relations qui sont sexuelles. Donc, pourquoi aussi qu'on a tendance à demander plus l'abstinence? C'est que ça se fait généralement seul. Il n'y a pas cette intimité voulue de Dieu entre deux personnes. Dans le fond, la sexualité, c'est quelque chose qui est comme un sceau pour souder, coller encore davantage l'amour qu'il y a entre deux personnes. Et c'est rare, je crois, qu'on peut se masturber sans imaginer quelqu'un d'autre. Il y en a peut-être qui le font, mais et quand on le fait, bien évidemment, c'est peut facilement traiter des gens comme des objets sexuels. Et moi, je sais que même, j'ai été célibataire, je me suis converti à l'âge de 18 ans, j'avais eu quelques relations sexuelles avant l'âge de 18 ans, mais j'étais très timide, puis j'étais assez mélangé, on ne m'avait pas vraiment bien appris sur la question de la sexualité. Et quand je me suis converti, bien évidemment, j'ai eu des luttes aussi à ce sujet. Donc, des fois, j'avais des grandes victoires, je pourrais dire, pendant plusieurs mois, puis à un moment donné, oups, je chutais. Et quand je chutais, c'est comme je me disais, mais tant qu'on va chuter, on va chuter pour de bon. Puis là, on arrivait à ça. Non, mais on n'est pas. Quand on est dépendant, là, le raisonnement, là, il prend le bord. Hein? Tant qu'à tomber, j'ai gaspillé mes deux mois. Fait que là, j'y allais à plein. Encore, je ne ferais pas lever la main, mais c'est probablement comme ça pour beaucoup. Parce que, à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui prend de l'alcool ou quoi que ce soit d'autre, la dépendance, c'est qu'on a comme une fierté, de dire, wow, ben, on ne veut pas gaspiller ça, on fait plus attention, mais lorsqu'on tombe, on commence à, c'est comme l'effet domino. Et puis, évidemment, je vivais dépendance. Par contre, ça dépendait. Des fois, ça allait bien, il y avait des vagues et tout. Mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on partageait peu. Parce qu'on pensait qu'on était les seuls qui luttaient souvent avec ça. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était partagé. Comment s'en sortir à ces niveaux-là, autant la masturbation, autant au niveau de la pornographie? Mais je pense que le point important, c'est de pouvoir le confesser à Dieu et demander sa puissance, de savoir, d'admettre qu'on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Mais un autre point qui est très important et qui est même essentiel, c'est de le partager avec quelqu'un d'autre de confiance. Quelqu'un qui est mature et qui est de confiance. Parce que c'est beau, des fois on spiritualise, c'est entre moi et Dieu. Oui. Mais entre moi et Dieu, Dieu, tu peux l'amener sur des sites internet pornographiques facilement, mais si tu es avec ton frère à côté, c'est un petit peu plus gênant. Hein? On peut, avec Dieu, on peut rentrer dans un bar de danseuses nues, mais c'est plus gênant avec ton frère ou avec le pasteur de ton église. Donc, faut pas se leurrer, là. On spiritualise la chose. Oh, entre moi et Dieu, oui, on a besoin de frères et sœurs parce que on sur-spiritualise les choses. Donc, c'est important de pouvoir le confesser, de le partager avec quelqu'un de mature et de confiance qui va être capable de comprendre et dire, hey, j'ai tombé. Moi, j'ai quelqu'un d'autre, un autre pasteur d'une autre assemblée où je le partage. Je vais avec lui et puis je partage mes luttes. Je partage mes difficultés parce que je lutte aussi. Et puis, moi, pour un moment donné, c'était... il y avait un fameux programme qui n'existe plus, ça s'appelait Bleu Nuit. C'était le samedi soir. Et nous, on n'avait même pas le câble, fait que j'avais pas beaucoup de choix de programmation. C'était merveilleux dans un sens. Et puis, je savais par contre le samedi soir, des fois, j'étais tout seul, Catherine était déjà allée coucher, puis avec la manette, on va juste aller voir si ça joue encore, c'est encore là. Ah oui, ça joue, c'est encore là. Puis là, on leur vire de bord, on retourne au hockey, puis après, d'un coup que c'est fini, on va aller voir si c'est fini ou pas. Puis finalement, tu... Donc, on retourne au hockey, puis après, ben, je pense que je vais prier pour eux autres. Je retourne dessus. J'exagère un peu, mais c'était à peu près comme ça. Puis d'un moment donné, oups, je reste plus longtemps. Et à chaque fois que c'est arrivé, je l'ai confessé à Catherine. Parce que nous, Catherine et moi, avant de se marier, on a vraiment mis carte sur table sur les choses que nous avions vécues sexuellement et ce que nous vivions. Et on savait qu'il n'y avait pas de secret. Et je peux vous dire une chose, quand tu sais que tu vas le confesser à ton épouse, tu fais pas mal plus attention. Hein? Vrai ou faux? Parce que c'est gênant de pouvoir d'avoir à le confesser à ton épouse. Et puis si ça l'arrive encore plus souvent et tout. Donc, c'est bon d'avoir une personne de redevabilité et de pouvoir partager ces choses. Ou même des fois, quand je lutte davantage dans ma tête, parce qu'on lutte beaucoup dans notre tête, puis au Québec, il y a des périodes de l'année où on lutte plus que d'autres périodes. Hein? À ce temps-ci de l'année, c'est pas trop pire, parce que si tu marches dehors et puis tout ça, donc il n'y a pas trop de peau qu'on peut voir. On est assez bien habillé, mais il y a des saisons d'année où c'est particulièrement difficile. Et puis quand je parle de pornographie, je parle pour les hommes, mais les femmes aussi de plus en plus qui y entrent. Donc c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut avoir un partage honnête et tout, et quelqu'un qui va être capable de prier avec nous et nous pardonner de pouvoir avancer. Et des fois aussi, il faut arriver à des points radicaux. Dans Matthieu 5, 27, j'ai lu tout à l'heure, mais si on continue plus loin, Matthieu 5, 28, je ne lirai pas, mais Jésus il dit, « Mais si ton œil pêche de l'arracher, » OK, c'est pas textuel, là, s'il vous plaît, parce que de toute façon, on serait tous pas mal aveugles si c'était... on aurait tous des billes, hein? Ça? Des pas de bras. Hein? You want to add something? OK, ça sera pas long. Mais donc, c'est l'importance des fois d'être radical avec on connaît des gens qui ont même mis sur leur Internet des programmes qui s'appellent, il y en a un qui s'appelle Covenant Eyes, puis il y en a une couple d'autres aussi, où ça veut dire que si tu vas sur un site Internet qui est graphique, là, qui est pornographique, ça l'envoie à trois personnes que tu as choisi de l'envoyer, mais que tu ne voudrais pas qu'ils te l'envoient. Quelqu'un a déjà choisi sa mère, son pasteur, puis une autre personne. Je peux vous dire qu'il fait pas mal plus attention. Et ça, c'est radical, OK? Et bon, on dit, ben non, on va marcher par l'esprit, il ne faut pas être légaliste. Mais quand c'est rendu vraiment une question de vie et de mort spirituelle, des fois, il faut être radical. Et il y en a qui font tout pour vraiment se protéger de ceci.
Je sais, on a juste 2 minutes, mais je veux juste ajouter vite, que c'est pas juste les hommes qui luttent avec la pornographie et la masturbation, c'est aussi les femmes. Plus en plus, les femmes qui luttent avec ça. Mais des fois, quand même, nous, en tant que femmes, on peut juger les hommes à cause de ça. Parce qu'on dit, non, mais nous, on lutte pas avec ça. Mais souvent, les femmes, on lutte aussi avec d'autres choses. On lutte avec les dépendances affectives ou on lutte aussi beaucoup avec les fantasmes. Tu sais, on a souvent des fantasmes relationnels et sexuels dans notre tête. Et le fait que c'est dans notre tête, on dit, bon, c'est pas si grave. Tu sais, il n'est pas quelque chose de physique. Mais quand même, on a les images et on nourrit les images dans notre tête. On peut voir quelqu'un pendant la journée, puis le soir, je me souviens, je n'étais pas capable de coucher si je n'avais pas les images dans ma tête pour coucher. Tu sais, les fantasmes romantiques, il y avait toujours un homme qui est venu m'aider. Alors, je pense que c'est important pour nous aussi, des femmes, aussi les hommes, si vous luttez avec ça, de reconnaître que je crois aussi d'entrer dans un monde imaginaire, ce n'est pas quelque chose que je crois que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on vive plus dans la réalité. Ça peut corrompre notre imagination. C'est pas quelque chose encore qui est réglé lorsqu'on est marié. Si ça va mal dans le lit, on peut penser à quelqu'un d'autre. Si on est toujours habitué d'aller ailleurs dans notre tête. Alors, je pense aussi qu'on peut maltraiter les uns les autres. Si je vois quelqu'un puis j'ai fantasmé de lui le soir, c'est comme de le traiter comme un objet. C'est de pas le traiter avec dignité. Alors, je crois encore, si on est les fantasmes, la même chose qu'avec la pornographie, ça peut augmenter notre désir sexuel. Ça n'apaise pas. Ça fait le contraire. Alors encore, je crois qu'on est appelé de vraiment veiller sur nos pensées, veiller sur qu'est-ce qui se passe dans notre tête, parce que ça affecte nos émotions et ça affecte ensuite notre comportement. Alors, je sais que le temps est passé. Je veux juste simplement finir par la prière. Je sais que vous avez probablement les annonces. Et juste vous rappeler encore que Dieu, il voit ça. Il voit nos luttes. Et moi, mon encouragement, c'est que vous invitez Jésus dans ces luttes-là. Que tu ne caches pas, que tu dis, OK, Dieu, il ne peut pas regarder à ça. Il veut t'accompagner dans ça. Il veut vous encourager. On a vu en Romains 9, 7. Et qui va m'aider avec ça? C'est Jésus-Christ qui peut t'aider. Il n'est pas contre vous. Il est pour nous. Et je crois que la meilleure façon de gérer notre sexualité, c'est de tomber en amour avec lui, de se réfugier en lui, de voir qu'il est ton premier délice. Et je crois qu'il peut combler tes besoins. Mais encore, ça prend que tu lui fasses confiance, hein? Que tu vides tes mains et tu dis, je t'invite. Viens, aide-moi dans mes luttes et dans mes difficultés.
Juste pour ceux qui prennent des dates, un peu de temps, mais le Proverbe 23, versets 26 à 33, et Jean 31, verset 1, qui sont des bons versets, et Proverbe 23,
Je voulais prendre plus de temps avec vous, de vous donner un temps de réflexion, mais on a des feuilles avec un iceberg. Et on ne va pas prendre le temps ici, mais j'aimerais quand même qu'on peut distribuer ces feuilles et que lorsque vous avez un peu de temps avant demain matin, que vous réfléchissiez. C'est quoi les blessures? J'ai parlé vite des blessures. C'est quoi les blessures que j'ai? C'est quoi les besoins pas comblés? Et c'est quoi mes luttes? Et alors, l'image de l'iceberg, c'est qu'ils sont en dessous de la surface. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la surface dans votre cœur? Que tu as besoin d'inviter Jésus dans ces domaines de vulnérabilité. Alors, j'aimerais terminer avec la prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier que tu es parmi nous. Tu as un très bon plan pour notre sexualité. Tu nous as créé les êtres sexuels et pour toi, c'est quelque chose de bon. Mais je sais que tu veux protéger nos cœurs, tu veux protéger notre pureté et notre intégrité. Seigneur, alors je veux te remercier pour les limites que tu nous as données. Mais tu vois nos luttes, tu vois là où comment c'est difficile, et je demande vraiment ta force, ta grâce, ta puissance et ton amour que tu agis en nous, parce qu'on a vraiment besoin de toi, de combler nos besoins pour l'amour, l'affection. On a besoin de savoir qu'on n'est pas invisible, qu'on se passe inaperçu. Seigneur, viens par ton esprit et remplis nos cœurs, remplis ces espaces vides. Seigneur, aide-nous de vraiment être tranquille dans ta présence. Et Seigneur, si pendant ce temps, on a parlé de la sexualité, si les choses sont éveillées en nous, ou même on est troublé dans notre esprit à cause des choses qui étaient dites, je te demande ta paix, ta calme, que tu viennes nous sécuriser encore une fois dans ton amour et dans la vérité. Et je demande ça dans le nom de Jésus. Amen.